Jeudi soir, bonsoir. La maison du droit. Pourquoi aborder ce thème-là aujourd'hui ? Parce que le thème du séminaire « Vie donnée de la vie reçue et la vie donnée » se passe, bien sûr, dans un contexte, enfin, tant qu'à présent, dans un contexte de couple, mais ce couple se trouve lui-même plus ou moins institué. Il y a une institution de cette transmission de la vie. Autrement dit, le corps social, curieux comme expression, hein, le corps, transmission par le corps, hein, enjeu de sa transmission par le corps. Le corps social prend en compte cette transmission de la vie. Et nous avons vu il y a 15 jours comment le droit occidental, disons, belge en tout cas, de la filiation, avait été parti de l'institution du mariage pour, en 1804, pour entrer dans une autre logique, à la suite d'abord de l'égalisation des enfants légitimes et des enfants naturels, et puis la reconnaissance des enfants adultérins, et puis le couple homosexuel. Donc, cela veut dire que la société, le corps social, dit dans le droit un certain nombre de choses sur cette transmission de la vie. Donc, je voulais aujourd'hui essayer de voir comment le droit se comprend lui-même, comment il comprend sa propre raison en tant que corps social, comment est-ce que le corps social comprend le droit qui le régit, pour essayer de comprendre à partir de là la façon dont il voit le don de la vie. Est-ce que c'est à peu près clair ? Donc, le vie reçue, vie donnée, qui est dans le corps à corps, eh bien, va se jouer à l'intérieur d'une institution. Et comment est-ce que l'institution se comprend elle-même pour comprendre le don de la vie ? Trois chapitres : les sources du droit, l'objectivité du droit, le droit comme le corps. Au fond, la question, c'est la question éthique par excellence, où trouve-t-on ce qui doit être ? Où trouvons-nous ce qui doit être ? Ce qui est, il suffit d'ouvrir les yeux et les oreilles, il suffit d'ouvrir les sens et nous voyons ce qui est. Mais qu'est-ce qui doit être ? Et où allons-nous trouver ce qui doit être ? Autrement dit, où se trouve la source du devoir éthique ? Et dans la mesure où le droit est une discipline éthique, où allons-nous trouver les sources du droit ? C'est un chapitre tout à fait classique que l'on enseigne en premier baccalauréat aux juristes, un cours sur les sources du droit. Le juriste apprend sagement que les sources du droit sont par exemple la législation, la jurisprudence et la doctrine. Donc la loi, les juges appliquent la loi, puis les auteurs réfléchissent sur ce que disent les juges et la loi. Et puis pour être complet, le professeur ajoute, il y a la coutume, il y a l'équité, il y a les principes généraux du droit, il y a aussi le traité international quelque part. Donc il y a une grande pluralité de sources du droit. Et on dit, c'est de là que le droit coule, ce qui doit être. Où a-t-on été chercher que le droit coule de la loi, ou de la jurisprudence, ou de la doctrine ? Posons la question à un échelon supérieur. Qui a le droit de désigner les sources du droit ? Si je dis, je dois trouver une source d'eau, j'appelle un sourcier, et il va dire, c'est ici qu'il faut creuser le puits, on creuse le puits, et on trouve de l'eau.
parce qu'il a désigné ce qui est l'autre. Et qui peut désigner ce qui doit être dans une société? C'est la question fondamentale des sources du droit.
Et on dira, mais c'est le pouvoir qui est la source du droit. Pouvoir législatif, pouvoir judiciaire, même le pouvoir exécutif, parce que dans la loi, on prend aussi l'arrêté royal, par exemple, ou l'arrêté ministériel. Donc, ce sont les pouvoirs qui disent le droit. Et le pouvoir de faire des traités internationaux, par exemple. Donc, la source du droit est identifiée au pouvoir. L'ennui, c'est que le pouvoir prétend vivre dans un état de droit. Or, quelle est la définition de l'état de droit? C'est un état où le pouvoir n'a pas tous les pouvoirs, mais il est soumis au droit. Dans une dictature, le pouvoir peut faire ce qu'il veut, il n'a pas de limite. Dans une démocratie, dans un état de droit, le pouvoir se soumet au droit. Oui, mais c'est la poule et l'œuf. Est-ce que le pouvoir peut se soumettre au droit alors qu'on dit que c'est lui qui énonce le droit? Du même coup, alors, on va dire, écoutez, non. Le pouvoir, il se trouve peut-être à la source du droit. Il faut bien que quelqu'un dise le droit, et il est à la source du droit. Mais il y aurait, par derrière l'énoncé du droit, ce que l'on appellerait une nature de l'homme, qui fait que le pouvoir devrait lire cette nature de l'homme pour énoncer la loi. Voyez ? C'est pas clair. Comment devons-nous vivre ensemble ? Quelle est la règle qui doit nous régir ensemble ? Où vais-je trouver cette règle-là ? Et on explique aux juristes cette règle-là, vous allez la trouver dans votre code. Prenez toujours votre code au cours et vous aurez comment les gens doivent se comporter. Mais le code, c'est l'émanation d'un pouvoir, le pouvoir législatif. Et on dit aussi aux étudiants, pour comprendre la loi, allez aussi voir la jurisprudence, la façon dont le pouvoir judiciaire a interprété la loi. Donc, ce qu'on donne dans la tête des gens, des étudiants en droit, c'est que le droit a pour source les énoncés du pouvoir. Mais si nous sommes dans un état de droit, nous disons que le pouvoir n'a pas tous les pouvoirs puisqu'il est soumis au droit. Mais d'où vient ce droit auquel le pouvoir doit se soumettre? C'est qu'il y aurait donc, en deçà de l'énoncé du pouvoir, un droit qui tiendrait en quelque sorte par lui-même, qui tiendrait à la nature même de l'homme, et qui s'imposerait à tout pouvoir. Et c'est à partir de là, de cette conclusion logique, que va se jouer une opposition entre deux écoles, celle précisément du droit naturel, que l'on appelle l'école juste naturaliste, et celle du positivisme. Vous savez qu'il existe plusieurs sortes de positivisme, entre autres le positivisme scientifique qui dit « moi, je ne tiens pour vrai que ce qui est prouvé par la science », qui est un positivisme juridique. Ce positivisme juridique, c'est le représentant le plus attitré au XXe siècle, c'est un juriste autrichien, Hans Kelsen, et il va dire que le droit est simplement une cascade de normes. Donc, qu'est-ce que je peux faire, moi, dans mon contrat avec mon garagiste? Ben, je peux faire ce que la loi me permet de faire comme contrat, et la loi, elle a été prise parce que la Constitution donne au pouvoir législatif le pouvoir de faire la loi. Donc, les juristes vont, et c'est une tâche très complexe, surtout qu'il y a beaucoup de sources du droit. Est-ce qu'une loi ne viole pas un traité international? Est-ce qu'il n'y a pas une coutume qui vient déroger à une jurisprudence? Les juristes ont pour rôle de vérifier la hiérarchie des normes. Mais alors, dit Kelsen, qu'est-ce qui fait que, en remontant, puisque chaque norme trouve dans une norme supérieure le fondement de sa juridicité, qu'est-ce qui fait que finalement tout tient? Eh bien, au-dessus de tout ordre juridique, il faut supposer une norme fondamentale, une Grundnorm, dit-il en allemand, qui dit, il faut la supposer, elle n'est plus posée. Cette norme, elle est supposée, et qui dit, obéit à la première norme posée. Donc, obéit à la Constitution. Si tu obéis à la Constitution, tu dois obéir à la loi. Si tu obéis à la loi, tu dois obéir à l'arrêté royal. Donc, tout l'ordre juridique va se boucler sur lui-même parce que lorsque je vois que le droit est globalement obéi dans un pays déterminé, les voleurs sont poursuivis, les gens payent leurs impôts, les parkings sont à peu près réguliers, eh bien, je peux dire, tiens, c'est que dans la tête des gens, il y a cette supposition-là que le droit est valable. Et donc, au-dessus de la hiérarchie des normes, au sommet de la hiérarchie des normes, je suppose cette norme fondamentale qui dit « obéir à la première norme posée ». Mais qu'est-ce que je peux poser comme norme? N'importe quoi. À partir du moment où une norme est obéie et que les gens pensent qu'il faut y obéir, ben c'est du droit. Et en cela, Kelsen est positiviste, il ne croit qu'à un droit qui a été posé par le pouvoir, et il a été posé par le pouvoir dans le respect de cette hiérarchie des normes. Donc, le pouvoir suprême, le constituant par exemple, a ouvert au pouvoir constitué la possibilité de créer du droit. Donc, tout finit par se boucler dans un ordre juridique aussi clair, aussi cohérent, aussi complet que possible. Il n'y a pas d'autre droit que celui-là, dit-il. Parce que, si vous dites qu'il existe dans la nature, un droit que le législateur, dont le législateur aurait à tenir compte, ou, si vous voulez encore un autre mot, il existe dans la nature une justice. Il y a quelque chose qui s'impose au pouvoir et qui doit pouvoir être énoncé, qui doit être énoncé par le pouvoir. Kelsen dit, moi je ne connais pas. Je ne connais pas de nature qui s'imposerait au législateur. Le législateur peut faire le droit comme il l'entend. Si vous dites que, mais non, dans la nature, c'est-à-dire dans ce qui est, se trouve déjà le devoir-être, c'est ça l'enjeu de l'affaire, dans ce qui est, se trouve déjà le devoir-être. C'est ça la position du juste naturalisme. Kelsen dit, non, dans ce qui est, je vois ce qui est. Je vois des lois physiques, ça, je peux les constater. Mais des lois juridiques, ça n'existe pas dans la nature. Les lois juridiques sont décidées par l'homme. En fonction de quoi? Mais de sa décision. Le droit est le fruit de la décision du pouvoir. Il ajoute, ça pourrait peut-être intéresser les théologiens, si vous dites que il y a dans la nature qui est un devoir-être, vous devez supposer derrière la nature une finalité. Et cette finalité ne peut venir que d'un créateur dans la nature. Mais moi, dit Kelsen, un créateur, ça je ne connais pas. Jamais vu. Cette notion-là de créateur ne tombe pas sous les sens. Or, je ne peux appréhender que ce qui est qu'à partir de mes sens. Donc, je laisse à la physique, aux sciences physiques, ce qui est, et je laisse au droit le soin de vérifier la cascade des normes où l'on a pu prendre connaissance de ce qui doit être. Là-dessus, pour essayer de relativiser ce positivisme, les justnaturalistes vont faire appel à une instance antérieure à l'énoncé du pouvoir et qui est aussi bien droit naturel que droit de l'homme. Et c'est ce que je voudrais voir avec vous maintenant. Il y a une longue tradition historique du droit naturel à laquelle on pourrait, d'une certaine façon, raccrocher la tradition des droits de l'homme. Parce que, en 1789, par exemple, au moment de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen à la Révolution française, cette Déclaration des droits de l'homme parle de droits, mais au pluriel, parle de droits naturels. Il existe des droits que l'homme possède par lui-même en tant que sujet, et dans la Déclaration universelle, cette fois-ci, non plus française, de 1789, mais dans la Déclaration universelle de 1948, la DUDH, Déclaration universelle des droits de l'homme, on n'emploie plus qu'une fois, nous allons y revenir, le mot naturel à propos de la famille, mais on trouve que la dignité est inhérente à l'homme. On parle de ce que les hommes naissent. Ils naissent libres et égaux, dit la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc il y aurait, en quelque sorte, rattaché à la naissance même de l'homme, c'est ça la nature, hein, c'est la naissance, rattaché à la naissance même de l'homme, une liberté et une égalité que le droit ne peut pas méconnaître. Je veux dire, le droit positif ne peut pas méconnaître. Donc, déjà, dans l'emploi du mot nature, dans la sémantique, on pourrait voir des liens entre le droit naturel et les droits de l'homme, mais dans l'histoire, on peut tirer la même conclusion. Aristote disait, il y a deux sortes de justes. Il y a un juste selon la convention, et là, on décide de prendre telle loi pour organiser le régime politique, la démocratie, par exemple, qui va être admis au vote. Ça, c'est une décision qui a été prise selon la convention, pour fixer des prix, pour fixer des jours de fêtes religieuses, pour fixer l'organisation du marché, du contrat, de la propriété. Ça, c'est conventionnel. Mais, dit-il, il y a des lois qui ne tiennent pas à la convention, mais qui tiennent à la nature. Pourquoi ? Parce que l'homme, l'être humain, a comme tel une nature qui suit sa propre loi et que l'homme doit pouvoir respecter. Aristote était aussi botaniste, il était polyvalent, et ça l'émerveillait de voir que une graine de telle fleur donne la fleur, et une graine de telle autre fleur donne une autre fleur. Donc, chaque être se développe, passe de la puissance à l'acte, selon sa propre nature. Et donc, l'homme doit aussi se développer, suivre la loi de sa propre nature, et le législateur, cette loi de la propre nature, elle est la même toujours et partout. Et donc, le législateur qui est à Sparte, à Thèbes ou à Athènes va devoir faire la loi de la cité, ne peut pas contrevenir à cette loi tirée de la nature. Et vous savez que Aristote a été largement baptisé par Thomas d'Aquin, qui voit dans cette distinction d'Aristote du pain béni, puisque il va dire, mais ce juste selon la nature qui a été mis en évidence par Aristote, mais c'est bien évidemment la loi naturelle. Et qu'est-ce que c'est cette loi naturelle qui tient à l'homme? C'est l'empreinte, comme le sceau dans la bague dans la cire, c'est l'empreinte de la loi éternelle. Donc, il y a, revoici le Créateur, il y a la loi éternelle de Dieu qui va s'imprimer dans la cire qu'est le Créateur, et la créature reçoit cette loi naturelle. Et Thomas d'Aquin veut dire qu'il y a une troisième sorte de loi, loi éternelle, loi naturelle, loi positive. Et donc, la loi positive vient en troisième lieu, c'est celle que prend le pouvoir, et il faut bien sûr que le pouvoir édicte la loi, pour savoir si on roule à gauche ou si on roule à droite, ou si on ferme les portes de la ville à 9h ou à 10h. Donc, il faut que le pouvoir décide ce qui est indéterminé, mais il ne peut décider que ce qui est de soi indéterminé, car si il existe déjà une loi qui tient à la nature même de l'homme, comme cette loi est l'empreinte de la loi éternelle de Dieu, l'homme ne peut pas y contrevenir. Alors, ça c'est le droit naturel, la loi naturelle, le droit naturel entendu selon les anciens. Mais vous voyez que nous sommes passés, vous allez voir plutôt que en passant du droit naturel au droit de l'homme, nous passons du singulier objectif, la nature, la loi naturelle, le droit naturel, au subjectif pluriel. C'est-à-dire que chez les classiques, Aristote, Thomas d'Aquin, l'homme se vit fondamentalement dans un groupe, le groupe familial, le groupe social, la cité. L'homme est un animal politique, l'expression est d'Aristote. Et Thomas d'Aquin range dans la loi naturelle de l'homme de vivre en société. Donc l'homme qui s'éveille à la vie se voit d'emblée social, dans une famille, dans une cité, et ça fait partie, dans un cosmos, et ça fait partie de l'intelligence qu'il a de lui-même, de se reconnaître inséré dans un ensemble plus vaste que lui, y compris une transcendance supérieure, celle de l'acte pur pour Aristote ou celle du Dieu créateur pour Thomas d'Aquin. Avec les modernes, nous entrons dans une autre perspective, Luther, le libre examen de l'écriture, Descartes, je pense donc, je suis. Et alors, sur le plan social, la construction de Hobbes ou de Rousseau, construction dont nous allons reparler, qui est celle du contrat social. Où ici, l'homme ne se considère plus d'emblée comme étant social par nature, il se considère d'emblée comme étant une liberté individuelle. Et c'est parce que cette liberté individuelle, une fois qu'elle est mise au pluriel des libertés, cette liberté individuelle est difficile à vivre. Qui va nous départager si nous sommes tous libres? Donc il faudrait que quelqu'un puisse nous départager entre nous. Il faudrait, chez Hobbes, que quelqu'un puisse nous faire peur. Parce que si nous sommes simplement des subjectivités individuelles livrées les unes aux autres, mais nous allons nous taper dessus. C'est la guerre de tous contre tous, puisque il va falloir se défendre. Donc, plutôt que de nous craindre les uns les autres dans l'exercice de nos libertés, nous allons nous mettre d'accord, nous allons passer un contrat social, où nous allons désigner une autorité. Chez Hobbes, c'est un monarque, chez Rousseau, c'est une assemblée. Nous allons désigner une autorité qui va imposer la loi. Et donc, nous obéirons tous ensemble à cette même loi, nous allons renoncer à une partie de nos libertés pour donner au chef la possibilité de nous régir, mais cette possibilité-là, c'est nous qui la lui avons donnée par un calcul de notre raison pour sortir de l'état de nature. Et vous voyez que c'est cette philosophie-là du contrat social où l'homme, dans son état de nature, c'est-à-dire dans son état de naissance, c'est-à-dire dans son état authentique, hein, le yaourt nature, c'est le yaourt qui n'a pas été ajouté par un quelconque artifice, donc c'est le vrai, quoi. Le vrai homme, celui qui est à l'état de nature, c'est un sujet individuel, c'est une liberté, et l'entité politique n'est instituée que pour préserver
cette liberté.
D'accord.
Donc, voilà, nous passons ainsi au subjectif pluriel. Et vous voyez que cette philosophie-là du contrat social va donner assez vite le positivisme juridique. Puisque, qu'est-ce qui va nous lier entre nous ? Nous ne sommes pas liés entre nous, au départ. Qu'est-ce qui va nous lier entre nous ? C'est le contrat social et les ordres du pouvoir qui se fondent sur ce contrat social. Eh bien, les ordres du pouvoir, ça va être la loi, et c'est cette loi décidée par le pouvoir qui va nous régir. Et l'on est passé donc d'une loi qui était autrefois, chez les classiques, d'une loi qui venait de la nature, et une nature qui était contemplée par la raison. La raison réfléchit sur ce qu'est l'homme et elle tire des conclusions qui vont passer dans la loi positive. Et ici, si vous voulez, la raison, à la période moderne, elle ne va plus regarder que ce qui est, c'est-à-dire la raison scientifique, c'est la raison scientifique qui va se mettre à l'œuvre, avec le développement de la physique, de la chimie, de la biologie, de tout ce que vous voulez, tandis que la loi, ce qui doit être, n'est plus précédée par rien, par aucun regard contemplatif sur le réel. La loi est simplement décidée par le pouvoir, lequel pouvoir a été mis en place par un contrat social qui nous a fait sortir des inconvénients de l'état de nature. Achevez la boucle, les juristes français qui prônent le mariage homosexuel se réfèrent à Kelsen. Puisque c'est ce que le législateur aura décidé qui sera la loi. Et il n'y a rien, Kelsen nous a appris qu'il n'y a rien qui précède l'énoncé de la loi. Et ce positivisme juridique est en droite ligne, bien en droite ligne du contrat social. Lequel contrat social consacre, en en faisant sortir, mais consacre la philosophie du subjectivisme. Alors, pour essayer de voir l'évolution et de voir comment on peut se situer par rapport à cette présentation, je voudrais parler sur des choses qui sont probablement plus faciles, parler du relestage des droits de l'homme. Pour essayer de voir une certaine, essayer de récupérer, de retrouver une certaine objectivité du droit. Lorsque les libéraux de 1789 consacrent les droits de l'homme et du citoyen, c'est-à-dire ils vont consacrer des libertés. Et donc chaque sujet, en quelque sorte, va être au centre d'un espace autour duquel l'État ne pourra pas intervenir. Première critique, ça va être celle de Marx qui dit, donc vous avez cet espace-là, il est celui, par exemple, de la propriété privée. Mais lorsque on voit les désastres causés par la propriété privée des moyens de production et la misère dans laquelle sont réduits les travailleurs, prolétaires de tous les pays, unissez-vous, donc il faut renverser cette conception des droits de l'homme qui n'est qu'une conception de l'homme bourgeois. Mais ce n'est pas la conception, ce ne sont pas des droits de l'homme, ce n'est pas l'homme qui est engagé là-dedans, c'est le bourgeois qui ne fait que défendre ses privilèges. Donc, premier lest, à côté des droits que l'on appelle civils et politiques, qui sont les droits de la tradition libérale, le socialisme, suivi après par la démocratie chrétienne, va parler des droits économiques, sociaux et culturels. J'insiste sur les droits sociaux, au sens où, à quoi sert-il de reconnaître une liberté si l'on n'a pas les moyens de la liberté ? Et donc, ce qui veut dire un logement, un niveau de vie suffisant, un travail, etc. etc. Donc, cet idéalisme du libéral qui se voyait comme une liberté pure est ramené à un plus grand réalisme par l'objection marxiste.
On avance, 1948, nous sommes au lendemain de la guerre. La guerre est gagnée par ce qu'on appelle les alliés contre les puissances de l'Axe. Dans les alliés, vous avez l'Ouest qui arrive avec la tradition libérale et vous avez l'Est qui arrive avec la tradition socialiste. Bon, je schématise très fort parce qu'il y a évidemment une forte présence socialiste dans les pays de l'Est. Mais, et les alliés veulent fonder un nouvel ordre du monde, précisément sur cette déclaration universelle des droits de l'homme dont je vous ai parlé. Et cette déclaration universelle des droits de l'homme prend, dans les premiers articles jusqu'à l'article 21, prend les droits civils et politiques, donc toute la tradition libérale, et puis dans les articles 22 à 26, prend les droits économiques, sociaux et culturels, et puis termine par les trois derniers articles, 28, 29, 30, pour dire, il faut, attention, hein, il faut un ordre. Nous déclarons les droits de l'homme, tout homme a droit à la liberté d'expression, réunion, association, il a droit à un logement, il a droit à l'accès à la culture, etc., etc. Mais aussi, il faut un ordre, et à l'intérieur de la société, il y a aussi des devoirs, et enfin, il faut qu'il n'y ait pas de contradiction. On ne peut pas invoquer un droit contre un autre à l'intérieur de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, ce qui pourrait être une certaine anarchie des droits est en quelque sorte canalisé dans, mais symboliquement ce n'est que dans les trois derniers articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme, est quelque peu canalisé dans les trois derniers articles, mais je dirais que cette mention-là contribue encore à relester un petit peu l'idéalisme de la liberté libérale. Et puis, 1948, nous sommes toujours dans le régime des colonies. 1960, la décolonisation. Donc là, les peuples du Sud qui arrivent à l'Assemblée générale des Nations unies disent qu'est-ce que c'est ces droits de l'homme, l'individu. Un Africain ne veut pas vivre comme un individu. Le droit, l'Africain va vivre dans la famille. Donc on va insister beaucoup sur... Dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, par exemple, on va beaucoup insister sur la famille. On va parler de la Charte africaine des droits et devoirs. Et au niveau international, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc c'est fini la colonisation. Donc les libéraux, ils rient, eux. Ça c'était la... droits civils et politiques sont les droits d'homme de la première génération, droits économiques, sociaux et culturels, droits d'homme de la deuxième génération. Et puis on va parler des droits de l'homme de la troisième génération, au premier rang desquels on trouve le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Les libéraux rient en disant des droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est le droit du sujet individuel. Vous allez parler des droits de l'homme de la troisième génération, et dans ces droits de l'homme, vous mettez le peuple. Oui, on pourrait imaginer, c'est d'ailleurs ça qui est le droit positif actuel, imaginer que l'homme n'est pas seulement un sujet libre, mais il est aussi inséré dans un peuple, et il est important que le peuple puisse disposer de sa propre initiative politique et économique, la France-Afrique, c'est fini, puisse disposer de ses propres ressources, de sa propre autonomie, pour décider de ce qu'il est lui-même. Donc, vous voyez, en quelque sorte, l'idéalisme libéral de 1789 s'alourdit un petit peu plus. Je parle des autres droits de la solidarité, le droit à la paix, le droit au développement. Ici aussi, le libéral rit en disant qu'est-ce que c'est ces droits de l'homme de la troisième génération, ce sont des vœux pieux, ça n'a rien de juridique puisque ça ne peut pas être sanctionné, disent-ils. On peut aller à Strasbourg pour dire que ma détention a duré trop longtemps ou bien qu'on a porté atteinte à ma vie privée et familiale. Mais s'il y a la guerre en Bosnie ou s'il y a des enfants qui vivent la misère au Kivu, qui voulez-vous assigner? Donc ce n'est pas un vrai droit. Vous voyez un peu la philosophie qui se dessine là-dedans. Dernier point, avant-dernier, l'environnement. Le droit à l'environnement fait aussi partie des droits de l'homme de la troisième génération. On dit, la liberté n'est pas une liberté pure. Nous vivons dans une nature, et ici revient la nature que l'on avait évacuée, ou plutôt, la nature que l'on avait purement et simplement réduite à la liberté. Qu'est-ce que c'est la nature de l'homme? Quel est l'état de nature de l'homme? L'état de nature de l'homme, c'est sa liberté. Cette nature revient sous la forme des arbres et des rivières que l'on a abîmés. Et enfin, on parle même d'une quatrième génération des droits de l'homme. C'est les droits, cette fois-ci non plus de l'individu, mais de l'espèce. Les droits de l'espèce humaine qui doit pouvoir être protégé contre les manipulations scientifiques, les manipulations du génome humain. Donc, vous voyez, quand je parle de relestage, c'est droit de l'homme, de la subjectivité libérale qui était en train de monter dans le ciel idéal, sont relestés par ces diverses successions historiques. Et je voudrais partir de cette petite fresque historique pour insister sur le corps, précisément, en tant que corps de la liberté et corps de l'égalité. Parce que la première condition de la liberté, libérale, c'est celle du corps. L'homme n'est pas libre sans son corps. Et donc, il faut que notre regard puisse changer sur le corps. Et le regard libéral qui se dégage du corps, comme du lien, c'est lié, hein. Le corps libéral qui se dégage du corps comme du lien doit pouvoir réfléchir davantage, méditer davantage sur sa propre condition et voir que le droit a pour rôle de protéger le sujet, mais de protéger le sujet en son corps. C'est en son corps que le sujet doit être protégé, puisque le corps lui-même est une condition de sa liberté. De même, enfin, c'est pas la même chose, bien sûr. De même que Marx a dit, à quoi sert-il d'une liberté si on n'a pas à manger, et puis qu'on parle du peuple, donc on alourdit, on montre que cette liberté a un poids. Je pense qu'on peut insister sur ce poids corporel du sujet, et que à vouloir se dégager de ce poids corporel, eh bien, on risque bel et bien de supprimer la liberté elle-même. Et parce que si on en oublie ce que je vais appeler l'en-deçà corporel, ce qui précède le surgissement de la liberté, on arrive probablement à une société qui sera fusionnelle. Ce qui permet au sujet de s'objectiver, c'est son corps. Et donc, retenez, le corps, c'est l'objectivité de la subjectivité. Le corps est l'objectivité de la subjectivité. Je sais que vous êtes là parce que je vois l'objectivité. Donc, si je veux protéger les sujets en leur liberté, je dois protéger cette objectivité. Donc, ça peut, la fusion peut se jouer, par exemple, au début de la vie ou à la fin de la vie, lorsqu'on dit que l'embryon est une partie des entrailles de la mère. Donc, il y a fusion. Il y a l'embryon qui s'objecte lui-même dans son objectivité toute petite, toute embryonnaire, est absorbé dans la main. Et dans l'euthanasie, le malin qui objecte sa corporéité toute souffrante, toute mouvante, elle est prise en charge par le médecin qui va dans une volonté fusionnelle avec le malade, il va prendre sur lui la volonté du malade et il va poser sur lui le geste euthanasique. Mais, donc, c'est là un débat fondamental de la façon de comprendre la liberté. Soit elle pèse de son objectivité corporelle, soit le libéral se dégage de cette objectivité et dit, oui, mais c'est précisément la liberté doit pouvoir se dégager de sa condition corporelle et chacun va pouvoir en faire ce qu'il veut. Et au lieu que, on revient à la raison du droit, au lieu que le droit protège les sujets dans leur objectivité corporelle, le droit va avoir pour tâche désormais de consacrer la liberté des sujets par rapport à leur propre pesanteur corporelle. Et avec le tour de force incroyable que tout le monde est content. Si vous voulez garder votre enfant, gardez votre enfant. Si vous voulez souffrir notre souffrance, souffrez notre souffrance. Si vous voulez un mariage hétérosexuel, gardez un mariage hétérosexuel. Il n'y a rien qui vous empêche. Mais puisque nous sommes en démocratie, il faut pouvoir donner à tout le monde la liberté par rapport à son corps. Et donc, de procéder à l'avortement, à l'euthanasie. La liberté est comprise par le droit comme dégagée du corps. Exactement. Donc, le législateur va donner au sujet, au citoyen, la liberté qu'il a lui-même lorsqu'il fait la loi. Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y a rien qui précède l'énoncé de la loi par le législateur. La source du droit, c'est lui, c'est sa volonté. Eh bien, il va, par répétition, si vous voulez, il va dire que les sujets de droit sont libres par rapport à leur corps. Et donc, tout le monde va se trouver, selon le libéral, tout le monde va se trouver d'accord. Pourquoi est-ce que je parle de violence ? Parce que tout le monde est d'accord, mais sauf que le libéral impose sa conception de la liberté. En disant, vous ne pouvez pas nous imposer votre morale en interdisant l'avortement ou l'euthanasie, mais le libéral impose, lui, c'est plus subtil, mais sa conception propre de la liberté qui fait que nous ne sommes liés les uns aux autres que par la liberté, alors que nous sommes déjà liés les uns aux autres par la chair. Nous avons tous la même chair, nous sommes tous des êtres corporels. Donc nous sommes déjà liés de cette manière-là, mais le libéral nie cette première union fondamentale, nous allons y revenir, au profit de la liberté. Parce que, dans la logique libérale, l'égalité, qui est l'autre pilier des droits de l'homme, les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droit, l'égalité va s'obtenir aussi par la liberté. Alors, dans les matières bioéthiques, il y a une réconciliation magnifique de M. Hollande et de M. Sarkozy, enfin du libéral et du socialiste. D'habitude, les deux camps s'opposent, comme vous savez, le camp de la liberté individuelle et le camp de l'égalité. Ici, les deux camps peuvent se réunir, puisque qu'est-ce qui fait l'égalité entre les sujets ? Ce qui va faire l'égalité entre les sujets, c'est la liberté qu'ils peuvent prendre par rapport à leur corps. Si tout le monde peut faire ce qu'il veut de sa condition corporelle, il oriente sa condition corporelle comme il l'entend, et tout le monde est égal à tout le monde. Nous sommes tous égaux au sens où nous pouvons chacun prendre la liberté par rapport à notre corps. Cette égalité suppose bien sûr que la liberté se soit abstraite de la chair. Et donc, il n'y a rien, d'après la loi libérale, il n'y a rien qui vient rappeler à la liberté qu'elle est limitée, qu'elle est tenue par une condition, par sa propre condition. Parce que ça, ce serait imposer une morale particulière dans une société où doit régner précisément la liberté. Et on doit régler l'égalité par la liberté. L'égalité qui c'est la question cruciale du juriste, l'égalité, puisque l'égalité, Aristote la définissait la justice comme étant l'égalité. Quand on dit c'est pas juste, ça veut dire je suis traité de façon inégale par rapport à autrui. Et la justice, c'est la vertu, elle a pour objet le droit. Le droit, c'est ce qui est juste. Donc, le droit est intimement lié à l'égalité, mais que veut dire l'égalité ? L'égalité de l'homme et de la femme, le couple, est-ce que l'enfant naturel, l'enfant légitime, l'hétérosexuel, l'homosexuel ? On voit bien que nos catégories jouent ici, aujourd'hui, sur la non-discrimination, mais est-ce que cette non-discrimination s'impose comme une référence obligatoire, est-ce que cette non-discrimination n'aboutit pas comme résultat à abolir la différence et donc aussi à permettre à chaque sujet de prendre ses distances par rapport aux propres conditions corporelles qui créent la différence par rapport à, par exemple, à la théorie du gender que l'on vous a expliqué, bien expliqué. Chapitre 3, le droit comme le corps. Je reviens sur ceci, sur le départ. Je reprends le seul mot, dans le seul emploi du mot naturel dans la Déclaration universelle des droits. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'État. Donc, c'est à la fois un fondement et c'est naturel. C'est naturel au sens où ça précède la société et c'est fondamental aussi. Donc, si vous voulez, la société se fonde sur une nature qui, en quelque sorte, précède la société. Et c'est la famille. Et dans le contexte de 1948, dans le contexte aussi de l'article 16, c'est la famille considérée comme l'union de l'homme et de la femme, unie dans les liens du mariage. Puisque à l'époque, 1948, on ne parlait pas encore de l'arrêt Marx chez nous en Belgique. Alors, c'est intéressant de voir le contraste entre cette approche de la société par la famille, comme fondement naturel, et l'approche de la société que nous avons vue tout à l'heure, en régime libéral, par le contrat social. Dans le contrat social, rappelez-vous, nous avons une série d'individus isolés qui n'ont a priori, aucun lien les uns avec les autres. Sinon les liens qu'ils ont décidés par le contrat et qui a désigné l'autorité qui va les régir. Tandis que dans la famille, a priori, il y a un lien, qui est le lien de l'homme et de la femme, et puis le lien des parents aux enfants. Alors, il y a quelque chose de paradoxal de fonder la société, si on emploie le mot fondamental au pied de la lettre, de fonder la société sur la famille, parce que la famille, c'est d'abord une non-liberté, diront les philosophes, et c'est aussi une non-égalité. Et comment peut-on fonder une société de gens libres et égaux, tous les hommes naissent libres et égaux en même temps, comment peut-on fonder une société de liberté et d'égalité, une société de droits de l'homme, sur un État où il n'y a pas vraiment liberté, car ce qui a joué dans la famille, c'est l'instinct. Est-ce que, pour reprendre les mots du juriste Ulpien, Ulpianus, Ulpien dit, saint Thomas va d'ailleurs le reprendre, la loi naturelle, elle est aussi ce qui est commun aux hommes et aux animaux. Commun aux hommes et aux animaux. Or, dans la loi commune aux hommes et aux animaux, on trouve l'union du mâle et de la femelle et l'éducation ou l'élevage des petits. Donc, si ça se passe dans le monde animal et que ça se passe dans le monde humain, voilà une loi naturelle. Alors, Thomas d'Aquin va faire beaucoup de synthèses pour essayer d'intégrer cette définition de Ulpien. Il va dire ça, c'est la loi naturelle que nous avons en commun avec les animaux, mais les hommes, en tant qu'êtres rationnels, ont en plus une loi naturelle de vivre en société. Pour Thomas d'Aquin, la vie en société fait bien partie de la nature de l'homme, et de chercher la vérité sur Dieu. Chercher la vérité sur Dieu fait partie de la loi naturelle propre à l'homme chez Thomas d'Aquin. Donc, au départ, cette société familiale basée sur l'instinct qui pousse l'homme et la femme l'un envers l'autre et qui les pousse l'un et l'autre à prendre soin des petits, est-ce que c'est ça la liberté? Et quant à l'égalité, mais
La société familiale n'est évidemment pas inégalitaire, parce qu'on pourrait disputer sur la question de l'homme et la femme, en tout cas dans l'Antiquité, il n'y avait certainement pas, ou au Moyen-Âge, il n'y avait certainement pas égalité, mais en tout cas on est sûr que pour les enfants, il n'y a pas égalité, un enfant n'est pas égal à son père. Donc il y a une soumission de l'enfant à son père, et pour Aristote, l'enfant fait partie de son père, de la personne de son père. Dans certains états, on met encore l'enfant sur le passeport de son père. Donc symboliquement, il y a une inégalité entre les personnes. Et d'ailleurs, Aristote parlait d'une justice domestique qui n'est pas la même que la justice politique. La famille crée une société particulière qui va préparer à la liberté et à l'égalité peut-être, mais qui n'est pas en elle-même une société de liberté et d'égalité, au sens où je viens de le dire. Alors, je pense qu'il y a un grand débat qui se joue dans nos sociétés actuelles de savoir quelle logique va jouer. Ou bien, vous tenez classiquement à l'article 16 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais vous dites que la famille est bel et bien fondement de la société et que le paradoxe de commencer par un défaut de liberté à cause de l'instinct et par un défaut d'égalité à cause de la puissance parentale, ce paradoxe-là n'est qu'apparent puisque l'enfant va être éduqué et va être conduit hors de la famille pour arriver dans la cité où il pourra exercer ses droits d'homme libre et égal à autrui. Ou bien vous dites, non, c'est la logique du contrat social qui compte, et alors, cette logique des droits de l'homme, de liberté et d'égalité, va au contraire refluer sur la famille. Et dire que ce qui compte maintenant, c'est que ce que la société a décrit comme étant son mode de fonctionnement à partir du contrat social, c'est-à-dire à partir d'individus foncièrement solitaires qui se sont mis ensemble pour protéger leur liberté, eh bien, vous faites avancer cette logique du contrat social, vous la faites avancer à l'intérieur de la famille, et donc vous rendez les entités familiales chacune libres et égales les unes par rapport aux autres, et vous avez par exemple ce que nous avons vu il y a 15 jours sur la désinstitutionnalisation du mariage, puisque, ou alors ce que je vous disais aussi, la femme comme unité de base. Donc ce n'est plus le couple comme tel qui va être considéré comme l'entité, c'est où la définition du mariage par Dagonier, on aura l'occasion d'y revenir la fois prochaine dans l'Alliance des sexes, où le mariage est vu comme la rupture de la solitude. Mais il n'y a pas une institutionnalisation qui ferait de la famille le fondement de la société. Donc cette antécédence familiale, elle peut être refusée dans le contrat social, ou elle peut être acceptée, et alors peut venir précisément appris à partir de la famille la notion de fraternité. Et donc, si vous voulez bien faire attention, le mot fraternité est le seul dans la trilogie républicaine qui exprime un lien. La liberté n'exprime pas comme tel un lien, l'égalité n'exprime pas comme tel un lien, c'est la fraternité qui exprime un lien. Et ce lien-là, pour qu'il puisse être vécu dans la société et qu'il puisse mettre ensemble la liberté et l'égalité, puisqu'il puisse médiatiser la liberté et l'égalité, il doit bien être appris quelque part, et je tiens qu'il est appris dans la famille, comme le nom l'indique. Alors, corps personnel et corps social. Donc, il y a la Fédération protestante insistait sur cette protection de la famille, et elle dit, elle prenait un argument de texte, dans le quatrième commandement, Moïse, honore ton père et ta mère. Et ce quatrième commandement précède les commandements de la vie sociale. Ne tue pas, ne vole pas, ne prends pas la femme d'autrui. Donc il y a une préséance du respect vis-à-vis de l'origine, vis-à-vis des parents, qui est une sorte de promesse, si vous voulez, pour le bon comportement dans la vie sociale. Et on va apprendre
si vous voulez, on devrait apprendre à l'intérieur de la famille le respect de chacune des entités. Donc, chaque sujet est voulu et apprécié pour lui-même. Mais, et où chaque corps est reçu comme l'objectivité de chacun des sujets. Mais alors, dans la dynamique du libéralisme, le corps, qui n'est plus du contrat social ici, hein, le corps n'est plus reçu comme l'expression objective d'un sujet qui est accueilli, mais accueilli dans une fraternité, ou, pour lâcher un grand mot, qui est accueilli dans l'amour. Si vous voulez, le droit que l'on trouve ici, le droit a besoin d'une instance qui le dépasse. Le droit ne peut pas tenir sa promesse. Le droit parle d'égalité et de liberté, mais il a besoin d'une fraternité qui fonde les liens et qui met ensemble la liberté et l'égalité. Et donc, si ça va être à l'intérieur de la famille que va s'apprendre ce respect de l'autre, ce respect de l'objectivité de l'autre, et où le corps va être accueilli comme l'objectivité de chaque sujet, mais ça, c'est dans la mesure où vous passez, vous accueillez la famille comme fondement du droit. Mais si vous renversez la dynamique, vous allez désormais considérer les corps selon une raison qui va être celle du positivisme, mais cette fois-ci du positivisme scientifique. Donc vous allez avoir la biologie qui va regarder les corps, qui va regarder les embryons, et vous allez avoir la rupture de l'alliance. Donc, le libéral va recasser les liens qui étaient noués dans la famille, et du coup, il va chosifier le corps. Donc, la famille qui était ce lieu, si vous voulez, d'humanité et de respect où les corps sont reçus dans l'affection conjugale et dans l'affection fraternelle, filiale et fraternelle, parentale, filiale et fraternelle, à partir du moment où les corps ne sont plus approchés que du point de vue de la grande société et du contrat social, vous allez avoir des dynamismes qui vont s'enclencher et qui vont où les passions vont se jouer. Alors, la passion des plus forts par rapport aux plus faibles, aux plus vulnérables, la passion de la science, la découverte scientifique va jouer à propos des corps. Et puis aussi, il faut bien dire, la passion de l'argent qui va se jouer dans toutes ces questions de bioéthique. Et donc, ça va être une dynamique qui va s'enclencher à partir de là, avec une chronologie des transgressions qui est intéressante à relever. On dit la contraception n'est pas l'avortement, l'avortement n'est pas la manipulation génétique, la manipulation génétique n'est pas la création d'embryons, la création d'embryons n'est pas le clonage reproductif. Donc il y a une dynamique de liberté, une dynamique de liberté et d'égalité qui s'enclenche parce qu'on a peut-être perdu un fondement tout à fait précieux dans le lien familial. Et donc, la responsabilité du législateur, le choix, réconcilier ou dissocier. Est-ce que le législateur va aider les gens à se réconcilier avec leurs propres conditions corporelles et donc aider la mère en détresse, aider le mourant, aider le... Il y a tout un travail d'approche qui serait plus inspiré par une logique de fraternité où les gens se essayent de s'épauler les uns les autres, ou bien est-ce que c'est une logique de dissociation où chacun est libre de lui-même et par là se retrouve égal à autrui. Ce que je redoute dans cette logique libérale, c'est que l'on cache toujours, ce qui est le cas, le tour de force du libéralisme, c'est de cacher le jeu des pouvoirs. C'était déjà le cas au XIXe siècle. Le patron est libre et le travailleur est libre et il conclut librement un contrat de travail. Et bon, il va travailler 14 heures par jour au fond de la mine, mais pour un salaire de misère, ça, chacun est libre. Donc, le jeu des pouvoirs est occulté dans l'exaltation de la liberté. Et moi, je crois que, à partir du moment où un sujet lâche la maîtrise naturelle qu'il a sur son corps, il faut bien que cette maîtrise naturelle aille quelque part. Et donc, c'est le pouvoir ou c'est la science qui va le rattraper. Si quelqu'un n'est pas réconcilié avec son propre corps, elle ne peut plus exercer lui-même la propre maîtrise de son corps, ce pouvoir ne va pas disparaître, c'est quelqu'un d'autre qui va l'exercer. Mais ce sera un pouvoir, ce sera une emprise de l'autre. Le langage, oui. Pour pouvoir justifier ces emprises-là, il va falloir prendre pouvoir aussi sur le langage. Donc il faudra transformer les mots pour faire admettre ces logiques-ci. Par exemple, dire qu'un embryon, c'est du matériau biologique d'origine humaine, etc. Ou l'euthanasie, c'est mourir dans la dignité, etc. Conclusion, la formulation du devoir être juridique dépend du regard porté sur l'être des humains, quitte du regard créateur. Voilà, j'ai dépassé l'heure. Comme je suis un fervent défenseur du juste naturalisme, j'ai apporté encore, comme l'année dernière, quelques exemplaires de droit naturel. Si ça vous intéresse, c'est à votre disposition. Vous pouvez le prendre et vous aurez la Déclaration universelle des droits de l'homme à la page 96.
Oui,
On prend encore deux, trois autres questions? Enfin, je ne sais pas comment on fait. Le rapport, en droit, rapport aujourd'hui hein, en droit de l'homme et famille.
Est-ce que la conception libérale du droit n'est pas fondée quand même sur une contradiction dans le sens où il y a cette norme de base qui m'oblige à respecter les obligations? Certains voient l'avancée que ça a représenté, d'autres voient l'exploitation qui en est faite aujourd'hui pour justifier des évolutions, etc. Est-ce que vous pensez que, voilà, comme chrétien, mais c'est bon, voilà, que discernement chrétien vous posez comme juriste sur ces déclarations-là?
Très bien.
Que pensez-vous de la proposition suivante? Il n'y a pas d'égalité des chances. Les parents transmettre à leurs enfants leur gène, c'est automatique, c'est la génétique. D'autre part, ils transmettent leur culture. Ça rejoint peut-être ce que vous avez dit sur l'inégalité dans la famille. Mais que pensez-vous de cette proposition? L'égalité des chances n'existe pas.
De l'idée de Michel Pivet sur laquelle le droit de l'homme n'a pas de sens juridique, c'est un truc de philosophe, alors que le droit naturel, oui, peut être. Comment une application de l'homme?
Vous trouverez ici dedans une longue discussion entre les droits naturels et les droits de l'homme, d'après Michel Pivet. Ben on va prendre à l'inverse. Les questions qui concernent les droits de l'homme. Le droit de l'homme et la famille, discernement chrétien et Michel Villet. Donc, Michel Villet, qui est un philosophe français du droit, très inspiré par le droit romain, est très attentif à la notion de droit comme un rapport. Donc, le droit met nécessairement les gens en rapport les uns avec les autres. Et le droit, c'est une distribution. Donc, je dois répartir un certain nombre de biens. Donc, le fait de casser l'idée de rapport pour dire « j'ai droit à », on dit « le droit à la santé ». Michel Villet se tape la main contre le front et dit « Mais qu'est-ce que c'est ce droit à la santé ?» Et il y a un certain nombre de soins de santé dans un pays déterminé et je dois m'arranger pour que le plus grand nombre de gens aient accès aux soins de santé et qu'ils soient... Mais parler d'un droit à la santé... Donc, ce qui le gênait, c'est le fait que le J comme titulaire du droit. Et comme si le sujet pouvait s'isoler du rapport de droit. Et donc, ça va fleurir dans le droit à la mort, par exemple, où j'ai droit à la mort, ça veut dire que je me coupe de la relation. Or, le droit, précisément, se fonde sur la relation. Donc ça, c'était l'insistance de Michel Villet. Pour contester la figure des droits de l'homme et contester dans les droits de l'homme le subjectivisme précisément. Cela dit,
Je pense, et on pourrait parler du discernement ici, je pense que les droits de l'homme sont tout de même un point de repère fondamental pour les gouvernants. Et c'est ce qu'on a voulu opposer aux gouvernants, ce sont ces droits de l'homme. Dans la tradition libérale, les droits civils et politiques, et puis la tradition plus sociale, les droits économiques, sociaux et culturels, et puis ce qu'on a appelé, troisième génération, qu'on appelle encore les droits de la solidarité, pour montrer dans quel contexte plus vaste. Mais je pense que ce sont ces droits de l'homme, même si on peut critiquer leur formulation subjectiviste, ces droits de l'homme sont des boussoles particulièrement importantes pour l'action des gouvernants. Donc qu'ils puissent permettre à la liberté d'expression, interdire la torture, ne pas laisser croupir les gens dans la prison, ce sont quand même des données tout à fait fondamentales. Respecter le droit à la vie, la liberté de conscience, la liberté de religion, ce sont des acquis fondamentaux. Donc, on peut critiquer une certaine logique des droits de l'homme dans la famille, mais il faut bien voir que dans la cité, c'est précieux. Et de même, le correctif socialiste pour dire... ce serait quand même bien de s'affoler pour que les gens aient un travail et un logement et des soins de santé et qu'ils aient accès à la culture. Et puis, respecter les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, respecter le droit à l'environnement. Donc, il y a dans cette accumulation des droits de l'homme, il y a un mouvement de fond qui, moi, me paraît sain de protection de la personne humaine, de la personne humaine entendue dans son contexte de plus en plus global. Ce qui peut être dangereux, et j'en viens ici à la famille, et là ce sera un discernement chrétien à opérer, c'est que précisément cette conception de la liberté et de l'égalité qui ont leur valeur à l'intérieur de la société, on vienne à consacrer la philosophie qui était précisément la philosophie de l'état de nature du libéral, c'est-à-dire que chacun est désormais livré à lui-même à la poursuite de son bonheur. Et donc, vous posiez la question, madame, de qu'en est-il des droits de l'homme et de la famille? Eh bien, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui est... dont le respect est garanti par la Cour européenne de Strasbourg, cette Cour européenne est tout le temps en train de se demander jusqu'où elle peut faire sauter la famille classique au nom des droits de l'homme. Puisque, on va dire, mais non, l'institution du mariage ne peut plus opérer une discrimination entre les enfants légitimes et les enfants naturels. C'est ce qu'on avait vu. Mais... maintenant, on va demander, oui, mais est-ce que le changement de sexe, est-ce que le mariage homosexuel ne doit pas être reconnu? Donc, les droits de l'homme servent en tout cas de point de repère, et en particulier l'article 8 de la déclaration de la Convention européenne sur la vie privée et familiale. La vie privée étant entendue, comme je vous le disais, non plus... d'être protégé contre les journalistes et les photographes, mais de pouvoir prendre dans mon intimité les décisions qui ne concernent que moi. Et l'article 14 qui exige la non-discrimination. Et donc, c'est ce ressort de l'égalité que j'essaie de vous expliquer, où on en arrive à l'égalité par la liberté que chaque sujet peut prendre. Donc, c'est un débat fondamental ici, de voir jusqu'où, et y compris dans la définition vie privée et familiale, dans la définition de ce qu'est la famille. Et donc, la notion de famille elle-même a beaucoup évolué dans la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, et finalement, une association affective un peu profonde peut être protégée au titre de la vie privée et familiale. Donc je pense que c'est un enjeu. Alors, l'inégalité
on dira, c'est vrai qu'il y a une inégalité de fait, il y a une inégalité dans les gènes, même à l'intérieur d'une même famille, il y en a qui ont plus de, des enfants qui ont plus de possibilités que d'autres, et dans les cultures aussi, il y en a qui, dès qu'ils avaient 4 ans, on allait les conduire un petit peu partout dans tous les musées d'Europe, et d'autres qui n'ont jamais vu que la cour, l'arrière-cour de la boutique. Donc c'est sûr qu'il y a des inégalités culturelles. Mais donc, quand on parle d'égalité, on ne pense pas à une inégalité de résultat ou une inégalité de fait. On parle d'une inégalité de chance, et donc on entend compenser autant que faire se peut, compenser le handicap, par exemple, s'il y a une maladie génétique, ou compenser le déficit culturel en donnant des écoles à action positive ou des milieux culturels plus défavorisés, on va les prendre davantage en charge. Donc, je pense que l'égalité, qui est un thème crucial du droit, comme vous savez, l'égalité reste bel et bien une visée à partir d'une inégalité. Mais toute la question, justement, est de savoir si, pour réaliser l'égalité, on doit s'abstraire. Quand on regarde les textes relatifs à la discrimination, il ne peut pas y avoir de distinction fondée sur la naissance, le sexe, l'orientation sexuelle, la richesse. Eh bien, finalement, quand il n'y a plus que cette perspective-là qui joue, cela veut dire que les personnes égales, qui vont être égalisées les unes par rapport aux autres, ce sont des personnes qui sont tout à fait abstraites. Or, je crois que pour pouvoir reconnaître, c'est les grandes affaires du droit, pour pouvoir reconnaître quelqu'un à égalité, il faut nécessairement plus que le droit. Et c'est pour ça que la famille est fondamentale. Et le lien social repose sur une affection que le droit ne peut pas exiger. Et c'est ce que j'essaie de dire la fois dernière aussi. La difficulté du droit de la famille, c'est qu'il repose sur une affection qu'il ne maîtrise pas lui-même.
Tout ne se décrète pas.
Voilà. Oui. Voilà. Alors, le... Oui, les deux questions plus théoriques. Est-ce que le respect des normes, d'une norme de base, n'est pas contradictoire pour un libéral? Si je reprends l'image du contrat social, où les libertés sont isolées les unes des autres et donc se retrouvent en guerre, il n'y a pas de normes. Il n'y a pas de normes qui s'imposent. La seule norme qui s'impose, c'est de sauver ma peau. Bon, vous allez peut-être dire, oui, mais ça, c'est une norme de base. Disons, c'est ce qui est donné dans la nature. C'est ce qui est donné dans la nature. Je veux sauver ma peau. Je suis libre. Et ça, c'est la loi. C'est la seule loi qui s'impose à moi. Chez Hobbes, c'est la seule loi qui s'impose à moi. Sauve ta peau. Alors, si je vois que, en passant un contrat avec les autres, je sauve ma peau, et donc, et que pour cela, je dois diminuer mes libertés, donc il y a un certain nombre de choses que je ne pourrai plus faire, pour pouvoir entrer en société, c'est ce que nous avons dû apprendre dans notre première éducation, un certain nombre de choses que nous ne pouvons plus faire pour pouvoir vivre en société. Et donc, si je vois qu'en passant un contrat, les uns envers les autres, nous pouvons vivre en paix, et donc que je pourrai continuer à sauver ma peau, alors je dois le faire. Ça va ? Mais alors, la question, à 5 francs, c'est ce contrat. C'est un contrat qui a mis en place un monarque, lequel monarque va dire la loi.
Et il va faire peur à tout le monde en prenant la loi. Et désormais, tous les contrats devront être respectés, on ne pourra plus voler, on ne pourra... Donc, c'est lui, avec sa force, qui va faire peur à tout le monde.
La question, qui oblige?
Qu'est-ce qui fait que le contrat est obligatoire, philosophiquement parlant? C'est le contrat qui a mis le monarque au pouvoir, et le monarque va exercer le pouvoir pour faire respecter tous les contrats qui vont être conclus après lui. Mais qui va faire respecter le contrat social? Pourquoi est-ce que le contrat social est obligatoire? S'il n'y a pas, ouais, qu'est-ce que je veux dire? S'il n'y a pas une source d'obligation antérieure à l'ordre du pouvoir. La liberté surgit à partir de ce qu'elle n'est pas. Oui, je pense que il y a une sorte de d'appropriation du corps par la liberté, une maîtrise naturelle qui fait que ce corps ce corps c'est moi, donc j'en fais ce que je veux. Peut-être qu'il vient, oui, il vient des parents, enfin ça c'est une chose, comme m'a dit un membre de la DFD, c'est du passé. Ça, c'est du passé. Je dis à la personne, mais pourquoi voulez-vous décider de partir dans l'euthanasie puisque vous n'avez pas décidé de venir? Ça, c'est du passé. Donc, l'être là, ça c'est l'état de nature, l'être là surgit, je suis là, je dois faire quelque chose de ma vie, et donc je fais quelque chose de ma vie. Je dirais que la question, c'est une question trop compliquée. Elle est peut-être liberticide, mais en attendant, je l'exerce.
Dans ton exposé aussi, tu supposes, hein, probablement que tu le réfléchis aussi, et qu'il y a un amont de droit.
Oui.
Autrement dit, pour la question précédente, qu'il y a une loi inscrite dans
oui.
le cœur,
oui.
et qui n'est pas normée, qui n'oblige pas par contrat, qui ne passe pas par la liberté, qui passe par le tort, une maman chimpanzé, enfin une femelle chimpanzé, même elle, instinctivement, et du côté des humains aussi, peut décider que sa loi n'est pas de survivre, mais de faire vivre son gosse ou son petit. Il y a un autre type de loi qui est inscrite dans le corps, et que si nous, peut-être pas les animaux, je crois pas, mais nous sommes capables de réfléchir ces lois en amont et de dire elles fondent mes instincts, mes réflexes et mes décisions ou mes obligations à faire contrat avec la tribu. Donc l'amont du droit, est-ce qu'il est religieux par exemple? L'amont du droit, est-ce qu'il est
pour Kelsen, l'amont du droit, s'il y a un amont du droit, c'est-à-dire un droit naturel et qui donnerait un certain contenu à la justice au lieu simplement de la grande langue qui dit obéir à la première norme posée, pour lui, il ne peut y avoir un amont du droit que s'il y a un Dieu. Un Dieu créateur qui a inscrit une finalité dans la nature. Mais s'il n'y a pas de Dieu, on est là, on ne sait pas d'où on vient et où on va, et donc on décide. Hein. Nous allons décider ensemble, et quelle est la base sur laquelle nous pouvons décider ensemble ce que nous allons faire? C'est le maximum de liberté à chacun, puisque c'est ça notre état de départ, et c'est d'arriver à égaliser les libertés.
Le droit sanctionne par exemple un fait religieux parmi les humains, donc il doit pouvoir penser en amont. En tout cas,
si tu veux penser ton fait religieux en amont, ça fait partie de ta liberté. Mais n'impose pas ta liberté. Et dira le libéral. Hein.
Le libéral n'est pas le théocrate, par exemple. Ce n'est pas une société théocratique. Nous sommes dans une société démocratique du peuple.
Oui,
des sociétés théocratiques comme l'Irak,
oui.
Par exemple, l'Iran,
oui, oui.
Eh bien, ne fonctionne pas dans son droit comme ça. Parce que les faits religieux.
C'est bien pour ça que je n'ai pas envie d'être irakien, dit la
Bible. Entre la théocratie et la démocratie, ou la pensée, disons, chrétienne, où est-ce qu'elle peut situer la source du droit pour que le droit soit chrétien? Peut-être que, pour que le droit corresponde à.
Tout à fait. Et je crois que le glissement préjudiciable, c'est d'être passé de la raison à la volonté. C'est-à-dire, la volonté est cette faculté qui décide. Oui, mais elle se décide à partir de quoi? Donc, la tâche du théologien, c'est de mettre en évidence la raison, et une raison, je dirais, contemplative, qui regarde le créé, qui regarde le réel, et qui voit que, par exemple, la liberté surgit à partir de ce qu'elle n'est pas. Donc, mais ça, c'est un regard ouvert sur la réalité et ouvert par une raison qui n'est pas seulement scientifique, qui essaye d'être aussi métaphysique en quelque sorte. Oui. Et on peut en arriver alors à Thomas d'Aquin qui voit la loi de la création dans la loi naturelle des humains.
Tu as parlé de loi éternelle, loi naturelle, c'est
oui.
Comme on l'a rappelé hier aussi. Olivier, peut-être de conclure.
Non, mais c'était simplement, disons, l'amont de Kelsen du positivisme juridique, c'est un amont très formel finalement.
Très formel, oui,
c'est le formalisme kantien appliqué à.
Oui, tout à fait.
À droit. Et oui, c'est un. Vide de contenu.
Exactement.
Et alors, l'égalité qu'ils défendent, c'est aussi une égalité finalement extrêmement formelle,
oui.
Et qui peut s'adapter à toutes les situations, puisqu'elle est vide de contenu. Donc,
oui.
Il y a une force dans ce formalisme juridique extraordinaire.
Extraordinaire.
Maintenant, la question, c'est de savoir est-ce que c'est suffisant, quoi. Enfin,
c'est une bonne question.